Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. En 2007, François d'Orcival publiait le roman de l'Élysée et nous entraînait à la découverte de la petite et de la grande histoire de ce palais bâti sous la Régence, qui fut à Tours la propriété de la marquise de Pompadour, du roi, de l'empereur et enfin de la République, qui en fit le siège de son pouvoir. Dans l'émission d'aujourd'hui, François d'Orcival vient nous présenter son nouveau roman de l'Élysée, paru aux éditions du Rocher. Il s'agit d'une édition renouvelée, enrichie de nouvelles sources et de nouveaux chapitres, qui viennent compléter le récit de 3 siècles d'histoire, et comme nous allons le voir, d'événements plus ou moins dramatiques, qui vont de la première garden party au mariage de Nicolas Sarkozy, en passant entre autres par l'abdication de Napoléon Ier, la mort romanesque de Félix Faure, le départ d'Albert Lebrun en pleine défaite en 1940, la maladie de Georges Pompidou, ou encore la surprise préparée par le chef d'état-major de Valéry Giscard d'Estaing, à François Mitterrand. Monsieur d'Orcival, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien grâce à votre chronique sur Canal Académie. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc, entrons dans le vif du sujet. En tant que lieu de pouvoir, l'Élysée intrigue, bien sûr. Pourquoi avez-vous souhaité en dévoiler ces secrets ?
Eh bien, parce qu'on se rend compte, comme vous venez de le rappeler en quelques mots, que ce palais, qui était un hôtel particulier lorsqu'il a été construit, ce palais est en quelque sorte le fil directeur de 3 siècles d'histoire de France. Il a appartenu à la monarchie, il a appartenu à l'Empire et il en a vécu un certain nombre d'épisodes. Et il est passé à la République, précisément parce que la République ne voulait pas des Tuileries, qui étaient le symbole du pouvoir monarchique et impérial.
Alors si vous le voulez bien, on va reprendre donc l'histoire de ce palais, comme vous venez de le dire, qui était un hôtel au début. De quand date-t-il et pour qui fut-il construit au départ ?
Alors, il a été construit par la Tour d'Auvergne, le comte d'Évreux. Et donc, le premier nom de ce palais de l'Élysée, c'était Hôtel d'Évreux. Il a été achevé en 1722. Il est le contemporain, en quelque sorte, du Palais Bourbon et d'un certain nombre des hôtels particuliers qui bordent cette rue du Faubourg Saint-Honoré et qui abrite aujourd'hui l'ambassade de Grande-Bretagne, l'ambassade des États-Unis, etc. Et donc, le comte d'Évreux l'avait construit pour y recevoir la cour, si je puis dire, ou en tout cas, autant que possible, ceux qui travaillaient à Versailles et qui venaient de temps à autre à Paris. Il l'avait construit avec les moyens que lui fournissait sa toute jeune épouse, qui elle-même était la fille d'un richissime homme d'affaires, et il n'a jamais habité avec elle, car cet hôtel particulier, il l'a finalement habité tout seul jusqu'à sa mort, donc 1753. Et à sa mort, c'est Madame de Pompadour qui arrive.
Et qui fait, j'y faisais allusion, en quelque sorte, c'est elle vraiment qui fait les aménagements intérieurs. Elle va beaucoup aimer cet endroit.
Oui, elle sera la décoratrice de l'Élysée. Et donc, le palais actuel en porte naturellement la trace et le souvenir à travers toutes sortes de boiseries, mais de son mobilier 18e, ses tapisseries de savonnerie et des gobelins. Et c'est à travers elle, que l'Élysée va entrer dans le domaine de l'État, domaine royal d'abord, impérial ensuite, domaine de l'État, parce que c'est elle qui le lègue au roi Louis XV à sa mort en 1764. Et vous rappeliez à juste titre que c'est encore elle qui y a organisé, en 1762 je crois, et au mois de juin, la première des garden parties.
Alors à la mort de la marquise, vous le disiez, le palais donc devient la propriété du roi, qui n'en fait pas grand-chose. Donc c'est d'abord Louis XV, puis après Louis XVI, et finalement le palais va traverser la Révolution, sans trop de dommages.
Il faut bien se rendre compte, en effet, que le palais de l'Élysée, qui est aujourd'hui le centre du pouvoir, n'est à l'époque qu'un palais parmi d'autres. Le roi est à Versailles, quand il vient à Paris, c'est au Louvre et aux Tuileries. Et donc, évidemment, l'Élysée ne compte pas. Et c'est parce qu'il ne compte pas que la Révolution a incendié, pillé, dégradé beaucoup de bâtiments ici et là, mais l'Élysée a été protégée. Et pendant cette période-là, il avait été la propriété de la duchesse du Bourbon, qui s'était exilée. Il est allé entre les mains d'une famille flamande, et que cette famille flamande a transformé en café-concert, en hôtel de réception de bals populaires, en hôtel où l'on louait des appartements. Et d'ailleurs, parmi les appartements qui étaient loués dans l'aile est de l'Élysée, eh bien, se trouvait la famille d'Alfred de Vigny.
Alors, après la Révolution, c'est sous l'Empire qu'il retombe dans le domaine public. Il va devenir la résidence des Murat, de Caroline Murat, la sœur de l'empereur.
Absolument.
Et là, abriter les histoires d'alcôve de la princesse Caroline, on est presque dans le boulevard.
Oui, oui, puisque elle reçoit à l'Élysée. Évidemment, le prince Murat, lui, le grand cavalier, était sur les champs de bataille loin de Paris. Et donc, sa femme, Caroline, recevait le gouverneur militaire de Paris dans son alcôve. Et tout ça, et pas seulement lui d'ailleurs, parce que ça donnera lieu à beaucoup d'anecdotes racontées par la duchesse d'Abrantès, qui n'était autre que l'une de ses petites amies de l'époque, avec laquelle elle organisait, avec Pauline, également sœur de Bonaparte, toutes sortes de réceptions, de bals, etc. Enfin, vraiment, on s'amusait beaucoup à Paris à l'époque. Mais cela va revenir aux oreilles de l'empereur, qui sera furieux naturellement de ce genre de choses. Et donc, il va en quelque sorte envoyer Murat vers l'Espagne avant que celui-ci ne devienne roi de Naples. Et donc, profitant de ce que les Murat quittent Paris, l'empereur va devenir le propriétaire de l'Élysée. Alors, la trace des Murat, elle existe dans la mesure où ils ont vraiment fait beaucoup de travaux pendant le peu d'années qu'ils ont habité l'Élysée. Ils ont fait beaucoup de travaux, créé l'escalier d'honneur, a refait l'architecture intérieure d'un certain nombre de pièces, d'où le fait que l'un des salons, le principal salon de l'Élysée aujourd'hui, le salon Murat, porte leur nom, et c'est là que se tient le Conseil des ministres.
Napoléon donc récupère à proprement parler le palais en 1808.
Oui.
Va-t-il y habiter ? Va-t-il y laisser des traces, lui ?
Alors, il ne l'habite pas, puisqu'il habite plutôt les Tuileries, mais il n'empêche qu'il va y passer un certain nombre de jours, tout de même, et notamment, il va y préparer, il y a 2 siècles exactement, donc en 1812, il va y préparer la campagne de Russie. C'est en gros à l'Élysée qu'il planifiera un peu la campagne qui va suivre. Et ceci ne sera pas oublié par le tsar Alexandre. Car l'une des choses extraordinaires de cette histoire, c'est que Napoléon donc va avoir deux abdications, la première, la seconde, comme on le sait, les adieux de Fontainebleau, bon. Mais lorsque ont lieu les 100 jours, eh bien, il va partir pour Waterloo, il sera de nouveau à l'Élysée, et au retour de Waterloo, il sera encore à l'Élysée. Dans la défaite, en quelque sorte, c'est là qu'il va abdiquer définitivement. Eh bien, le tsar Alexandre, qui avait déjà occupé l'Élysée l'année précédente, en 1814, au moment du premier retour du roi Louis XVIII, va à nouveau occuper l'Élysée. Il va y rester plusieurs mois, tout l'été 1815, avant de repartir pour Saint-Pétersbourg. Et effectivement, Napoléon quittera donc définitivement le pouvoir en quittant l'Élysée, ce qui est extraordinaire.
Alors, au sujet des deux passages du tsar Alexandre, vous racontez d'ailleurs une anecdote. C'est lors de son retour en 1815, le tsar Alexandre s'installe dans un des canapés du salon d'apparat pour retrouver un objet qu'il y avait laissé et qu'il y retrouva d'ailleurs.
Et oui, et c'était une trace d'une autre histoire, mais qui est tout à fait étonnante, qui était un souvenir de Hortense, de la fameuse reine Hortense, fille de Joséphine, qui l'a manifestement séduite lorsqu'il est allé à la Malmaison, là, au mois de mai 1814. Et le tsar était celui qui aura accompagné jusqu'au dernier jour la mère d'Hortense, c'est-à-dire Joséphine. Joséphine, on sait, est morte d'une pneumonie en 1814, eh bien, celui qui la veillait, en quelque sorte, c'était le tsar. Quand on sait la tendresse, l'amour durable que Napoléon a porté pour Joséphine, c'est tout à fait étonnant de voir son ennemi personnel accompagner les derniers moments de Joséphine et de suivre ensuite, ils se sont écrits beaucoup de lettres pendant l'hiver 1814-1815 avec la fille, c'est-à-dire Hortense.
Après l'Empire, donc, le palais redevient la propriété du roi, Louis XVIII. À qui le destine-t-il ?
Louis XVIII le destine à celui qui peut prolonger la dynastie, c'est-à-dire à son neveu, le duc de Berry, qui épouse lui-même une Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Il se marie à Notre-Dame au mois de juin 1816 et la nuit de noces de ce mariage, eh bien, c'est à l'Élysée qu'elle se passe. Ce sera la seule de l'histoire du palais. Et c'est là, histoire extraordinaire aussi, que, évidemment, Louis XVIII n'attend qu'une chose, c'est que le duc de Berry lui donne, avec la duchesse Marie-Caroline, un enfant. Et donc, un enfant mâle qui prolongerait la dynastie. Or, il va y avoir des enfants morts-nés, nés des naissances, celles de filles. Et pourtant, au mois de janvier 1820, à la fin du mois de janvier, on donne un bal à l'Élysée. Le duc de Berry dit à sa femme qu'il ne souhaite pas la voir danser, ou tout de même avec prudence, ce qui signale qu'elle est au début d'une grossesse. On le sait, en février 1820, le duc de Berry va être assassiné à la sortie de l'Opéra de Paris, qui se trouve à l'époque Square Louvois. Eh bien, ce bébé qui n'est pas encore né va naître au mois de septembre suivant. Ce sera un garçon. Ce garçon sera le duc de Bordeaux, puis le comte de Chambord. Et ce sera donc ce comte de Chambord qui, en refusant un certain nombre de symboles, dont le drapeau blanc, finira par installer non pas la dynastie des Bourbons, mais la République.
Alors la duchesse de Berry quitte le palais le soir même de l'assassinat de son époux. Elle refuse d'y retourner par la suite, bien entendu.
Elle n'y retournera jamais.
Mais petite parenthèse, on a l'impression en vous lisant que bien souvent les épouses ont détesté ce palais, sauf Bernadette Chirac d'ailleurs.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce que de deux choses l'une. Ou elles ont pu y faire vraiment des choses et y être vraiment la maîtresse de maison, ce qui était le cas de Bernadette Chirac, ou bien ça n'était pas le cas. Et il faut bien se dire qu'à l'Élysée, l'essentiel de la vie quotidienne vous échappe. Quand vous êtes la maîtresse de maison, ça n'est pas une situation agréable. Donc, Madame de Gaulle n'y jouait pas grand-chose. Madame Giscard d'Estaing, encore moins, parce que Valéry Giscard d'Estaing surveillait tout. Daniel Mitterrand ne s'y intéressait pas par, je dirais, par affection, au pluriel, parce que ses centres d'intérêt étaient tout à fait en dehors, etc. Tandis que Madame Chirac, y sera restée 12 ans, comme elle était restée 18 ans à l'hôtel de ville, et elle s'y est vraiment intéressée parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Et Madame Pompidou, elle, il y avait la trace du malheur, de la maladie de son mari, et c'est vrai qu'elle n'a pas du tout aimé l'Élysée.
Voilà, tout comme la duchesse de Berry, elle ne voudra plus jamais y retourner. Absolument. Mais revenons en arrière. Donc après la Restauration, il va y avoir la Seconde République, et c'est à partir de là d'ailleurs que l'Élysée va devenir résidence du président de la République.
Absolument. Donc, nous sommes au mois de décembre 1848. Louis-Philippe est parti au mois de février, s'exiler. Et en décembre 1848, élection présidentielle. La Deuxième République a un président de la République. Il faut le loger. La République ne veut pas des Tuileries. Et donc, elle loge le président de la République à l'Élysée. Ce président de la République, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, il s'installe à l'Élysée. Il va entrer en conflit avec l'Assemblée. Et de ce conflit va naître la préparation du coup d'État, et c'est donc le coup d'État du 2 décembre 1851. Il le prépare à l'Élysée, et en particulier dans le Salon d'Argent, qui clôture en quelque sorte l'aile est du palais sur le jardin.
Et dans lequel son oncle avait abdiqué.
Et dans lequel, vous avez raison de le rappeler, son oncle, l'empereur Napoléon, avait abdiqué.
Mais donc, une fois le Second Empire rétabli, Napoléon III va quitter l'Élysée pour établir sa résidence aux Tuileries. Et vous mettez en lumière un autre aspect de l'Élysée, donc sous le Second Empire, c'est que finalement, il a servi à la politique étrangère de Napoléon III.
Mais beaucoup. Il a reçu là la reine Victoria, il a reçu là le tsar Alexandre II, il a reçu là la plupart des personnalités, des souverains avec qui il convenait d'avoir les meilleures relations possibles. Et c'est ce qu'il a fait pour tous les souverains européens qu'il a reçus à cette occasion, mais aussi également le pacha de Turquie et d'Égypte. Enfin bon, je veux dire que l'Élysée était non seulement la maison des hôtes, mais une maison de réception et de réception spectaculaire.
Alors en 1870, une nouvelle révolution attend le palais, la Commune, qu'il traverse à nouveau sans dommage. Mais nous arrivons donc à la période républicaine et avant, je vous propose de marquer une courte pause.
Il fut le familier de Brancusi, Bourdelle ou encore Mayol. La vie d'Antoine Poncet s'apparente à un roman nuancé, balancé entre la Suisse et la France. Découvrez cet artiste au grand talent qui est aussi en 2009 le président de l'Académie des Beaux-Arts. Plongé dans son univers et son atelier de la rue Saint-Simon à Paris. 67 ans de travaux, des rêves et toujours de la joie. Écoutez l'émission Antoine Poncet, un sculpteur au royaume de l'art.
Merci d'être resté avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de François Dorcival, venu nous présenter le nouveau roman de l'Élysée, paru aux éditions du Rocher. Nous avons quitté l'Élysée en 1871. Sous la Troisième République, 14 présidents vont se succéder à l'Élysée. Un d'eux meurt au palais. Il s'agit de Félix Faure, qui le 16 février 1899, on est alors en pleine affaire Dreyfus, succombe, soi-disant, à une crise cardiaque. Vous écrivez, François Dorcival, qu'il s'agit en fait d'une des plus belles énigmes policières du siècle. Racontez-nous ça.
L'énigme policière est moins la mort de Félix Faure que celle de la découverte de sa connaissance, comme on dit, ou de sa favorite, bref, de sa maîtresse, Marguerite Stenel, prisonnière d'un fait divers extraordinaire, 9 ans plus tard, en 1908, dans la petite maison qu'elle occupe. Jusque-là, impasse Ronsin dans le 15e arrondissement. Et c'est à travers cette affaire, ce fait divers terrible, puisque on va y retrouver assassiné à la fois sa mère et son mari, que on va revenir sur la mort de Félix Faure. Félix Faure est mort probablement d'une surconsommation de l'équivalent de Viagra d'aujourd'hui, avec un cœur relativement fragile, parce que, de toute façon, c'est un homme jeune. Qui disparaît le 16 février 1899. Et donc, tout le monde s'interroge pour savoir ce qui a pu se passer impasse Ronsin en 1908 et qui puisse avoir une relation quelconque avec la mort de Félix Faure. Cela conduit en réalité Marguerite Stenel, sa maîtresse, à raconter toutes sortes d'affabulations dont les juges ne sortiront pas et donc elle sera finalement laissée libre. On n'aura pas la réponse aux faits divers dont nous parlions, mais en revanche, on commencera de comprendre ce qui a entouré la mort de Félix Faure. Il faut bien se dire qu'il était au début un anti-Dreyfusard, comme beaucoup, pour devenir à la fin un pro-révision de ce procès. Et donc il a été le jouet de l'opposition et des passions fantastiques qui se révélaient à l'époque entre tous ceux qui pouvaient le ridiculiser pour le qualifier de pro-Dreyfusard ou le disqualifier s'il paraissait pouvoir être dans l'autre camp. Et donc, effectivement, l'affaire Dreyfus a joué un grand rôle dans cette disparition, non pas dans la disparition elle-même, qui est claire, mais dans l'explication et le climat que cela a créé.
La Troisième République, c'est aussi le régime qui connut les deux guerres mondiales. Vous y faites bien sûr allusion, vous évoquez les conseils de guerre de Raymond Poincaré, salon du Capharnaüm, suivi quelques années plus tard par le salon du naufrage.
Oui, d'Albert au fond, vous avez un contraste saisissant entre deux guerres, celle où Poincaré est le président de la République et celle qui commence et dont Albert Lebrun est en quelque sorte le dernier acteur de la Troisième République. Poincaré se révèle un grand président de la République, et si grand que c'est lui qui ira chercher Clémenceau, qui est tout de même son ennemi personnel, politiquement, et pour finir et emporter la victoire, finir la guerre et emporter la victoire. Quant à Lebrun, qui sera resté à l'Élysée non seulement un septennat, mais un septennat renouvelé, son septennat avait commencé dans le deuil, puisqu'il s'agissait de l'assassinat de Paul Doumer en 1932. Et donc, Albert Lebrun vit, traverse toutes ces années, y compris les émeutes de 1934, le Front populaire 1936, etc., la déclaration de guerre de 1939. Il est réélu président de la République parce que, naturellement, on ne veut pas changer à ce moment-là. Et étant réélu, eh bien, c'est lui qui sera le dernier président de la Troisième République en fermant en quelque sorte derrière lui le dimanche 9 juin avec le dernier Conseil des ministres, le lundi 10 juin, l'Élysée qui va rester inoccupé, sauf pendant une période d'Arlan, pendant toute la durée de la guerre jusqu'à 1947.
Alors nous n'avons pas le temps de tout évoquer, donc nous allons passer directement à la Ve République. Époque très importante, puisque là, avec le général de Gaulle, l'Élysée devient l'outil de travail, en quelque sorte, du président de la République.
Oui, et alors, si vous voulez, en 1958, quand le général de Gaulle revient aux affaires, il est président du Conseil. Il sera le dernier chef du gouvernement, président du Conseil de la IVe République. Et donc, le pouvoir est à ce moment-là à Matignon. Mais la conception qu'il a de la nouvelle constitution de la Ve République, c'est que le président doit exercer l'exécutif, donc la principale des responsabilités. Il est naturel qu'il aille à l'Élysée, même si lui pensait pouvoir aller à Vincennes ou à l'école militaire ou ailleurs. Et puis finalement, il a renoncé. On avait même évoqué le château de Versailles, ce qui était beaucoup, disait-il. Et donc, il renonce à tout ça, s'installe à l'Élysée, et là, il installe le pouvoir. Il faut bien observer que jusque-là, les présidents sont des présidents arbitres. Ce sont des présidents qui reçoivent les chefs de gouvernement qui viennent constituer leur gouvernement, qui président les conseils des ministres, mais rien de plus. Le général de Gaulle, il est celui qui gouverne, celui qui est le chef des armées, celui qui est le chef du pouvoir exécutif et bien au-delà. Et donc, effectivement, l'Élysée va subitement se transformer en une grande collection de bureaux qu'on va installer partout. Et progressivement, on va d'ailleurs compléter le bâtiment lui-même par des acquisitions d'hôtels particuliers situés rue de l'Élysée.
Donc finalement, l'Élysée sous De Gaulle symbolise un pouvoir fort du président. Et c'est assez intéressant parce que vous mentionnez le Conseil des ministres exceptionnel d'ailleurs, le jeudi de l'Ascension 1968. Oui. Donc nous sommes en plein mai 68. Oui. Et là, pour la première fois, le président de la République, De Gaulle, demande conseil vraiment à ses ministres.
Il fait vraiment un tour de table pour savoir ce que les uns et les autres pensent, s'il faut aller aux élections, s'il faut aller au référendum. Ceci précède le départ dramatique qui va être le sien, juste à la fin du mois de mai, où, on le sait, pour retrouver des forces, pour reconstituer en quelque sorte son pouvoir, eh bien, il part vers l'Est, vers Baden. Il va retrouver le général Massu qui commande nos forces françaises en Allemagne. Et le général Massu et lui vont, d'une certaine façon, l'un l'autre, se redonner du moral. Et Massu témoignera sur le fait que De Gaulle était en train de perdre pied. Et Massu ne l'accepte pas et naturellement, De Gaulle rebondit, rentre à Paris, reconvoque le Conseil des ministres et, comme on le sait, reprendra d'une certaine façon le pouvoir, suivi d'ailleurs par les élections de juin 68.
Nous avons évoqué tout à l'heure la maladie de Georges Pompidou. C'est pour la première fois la maladie entrée à l'Élysée. Autre chose importante sous les Pompidou, quand même, c'est l'introduction de l'art contemporain, enfin d'artistes contemporains.
Oui. Vous avez raison, au fond, peu de présidents de la République ont laissé leur trace à l'Élysée. C'était le mobilier national qui s'occupait de tout et qui maintenait avec une grande vigilance l'état des lieux. Georges Pompidou, après Madame Auriol, que nous n'avons pas cité tout à l'heure, mais après Madame Auriol et donc Vincent Auriol, qui, elle aussi, avait fait appel à des créateurs contemporains pour les appartements privés, Madame Pompidou, qui adore l'art contemporain, qui a communiqué cette passion à son mari, tous les deux vont donc faire transformer les salons des appartements privés qui se trouvent dans l'aile Est. Donc, un certain nombre de peintres, mais de créateurs contemporains, dont Pierre Paulin, vont réaménager ces salons, fumoirs, salle à manger, petits salons, etc. Et tout ceci avec infiniment de prudence, puisque ces décors seront des panneaux, de sorte que lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive à son tour, qui lui aime et préfère le XVIIIe siècle à l'art contemporain, eh bien, on enlève les panneaux et on retrouve le décor ancien, les panneaux en question allant au centre Georges Pompidou.
Alors, vous évoquiez Valéry Giscard d'Estaing à l'instant. On découvre, en vous lisant, comme il est peu préparé à un de ses rôles pourtant
très important,
celui de chef militaire.
Absolument, de chef des armées. Et donc, il va l'apprendre, naturellement, très, très vite, à la fois au contact des chefs militaires, au contact de la diplomatie internationale. Et puis, il va prendre une décision qui restera. C'est qu'il y avait sous l'une des cours de l'Est de l'Élysée, un abri anti-aérien qui avait été construit sous Albert Lebrun dans les années 1936-39 pour recevoir et accueillir donc une centaine de personnes. Eh bien, cet abri avait été évidemment totalement abandonné. Et Valéry Giscard d'Estaing va décider de le transformer en PC nucléaire, donc ce qu'il a appelé le PC Jupiter. Et c'est par conséquent à cet endroit-là que depuis, les présidents de la République sont appelés, avec leur chef militaire, à découvrir ce qu'est la planification nucléaire.
Nucléaire qui nous vaut aussi une anecdote, cette fois-ci au moment de la passation de pouvoir entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. J'y faisais allusion en introduction. Pouvez-vous nous raconter ça?
Donc là, nous sommes en effet en 1981, le 16 mai 1981, ou quelque chose comme ça, ma mémoire me trompe peut-être, en tout cas le jour de l'installation de François Mitterrand. Même, oui, probablement plus le 21 mai, parce qu'il avait été élu le 10. Et donc, ce jour-là, le grand chancelier lui remet traditionnellement le grand collier ou lui présente le grand collier de grand maître de la Légion d'honneur, mais en même temps, on lui remet les codes nucléaires. Et alors, pratiquement à l'époque, ça se présentait sous la forme d'un médaillon que le président de la République devait porter sur lui et d'une enveloppe scellée dans laquelle figuraient les fameux codes d'identification. C'est-à-dire que lorsque le président chef des armées transmettait un ordre, on ne puisse pas se tromper sur l'origine de l'ordre. Et donc on lui remet ce médaillon, et au cours de la journée, retrouvant le soir au retour du Panthéon un certain nombre de ses amis qui lui disent « Alors, monsieur le président, qu'est-ce qu'on vous a remis? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que... etc. » Et donc François Mitterrand se rappelle qu'on lui a remis ce médaillon. Et donc il fait quelques efforts pour ouvrir ce médaillon. Il faudra quand même une petite pince, un petit outil pour l'ouvrir vraiment. Il va ouvrir ce médaillon et constater qu'à l'intérieur, il était vide. Et donc, heureusement, le chef d'état-major particulier était là pour, naturellement, avoir tout ce qu'il fallait en cas de crise.
Alors, terminons rapidement avec le dernier chapitre, celui consacré à la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous avez choisi de raconter pour cela la journée du 2 février 2008. Pourquoi ?
Eh bien, parce que ce jour de 2 février 2008 se déroulent deux événements qui vont se suivre dans le même salon de l'Élysée, le salon vert, premier étage, qui avait été le bureau de Jacques Attali. Jacques Attali qui avait fait découvrir l'Élysée à Nicolas Sarkozy. Et donc, à 9h, il y avait une réunion de crise avec le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, les chefs militaires, etc., consacrée à une crise en Afrique qui était la crise du Tchad, la première crise étrangère à laquelle devait faire face le président de la République, nouvellement élu l'année précédente. Cette réunion se termine à 10h et à 11h dans le même salon, eh bien, Nicolas Sarkozy épousait Carla. Carla, donc le secret du mariage avait été parfaitement gardé, même si depuis le 8 janvier, on savait que entre le président et Carla, ce serait du sérieux, entre guillemets. Et donc, c'est ce jour-là qu'il l'a épousée. Et ce qui est amusant, c'est que les invités, donc la famille de Carla, les témoins, etc., tout le monde est passé par le jardin pour ne pas éveiller l'attention des photographes, des journalistes et des reporters qui, eux, pour la crise du Tchad, se trouvaient dans la cour d'honneur.
Merci infiniment, François Dorcival. Le nouveau roman de l'Élysée est publié aux éditions du Rocher.
Merci à vous.